Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Seria Brown, Léa Sabourin et Thibaut Affringue. À la réalisation, Alexandra Candilonguet. À la technique, Pierre Faucillon.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Ce n'est pas encore le retour du commissariat au plan, mais le chef de l'État a tout de même évoqué le 13 avril dernier la possibilité de planifier, un terme qui nous replonge 75 ans en arrière, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La France développe alors un modèle économique dans lequel l'État joue un rôle central aux côtés du secteur privé. Objectif, rebâtir l'outil industriel et renouer avec la prospérité. Le pari est audacieux et pourtant, comme l'écrit un ancien commissaire au plan citant Shakespeare, nous nous sommes aventurés car le résultat espéré doit étouffer la crainte du péril probable. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons raconter l'histoire de la planification à la française en compagnie de nos deux invités. Bonjour Jacques Mistral.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur à l'Institut français des relations internationales et directeur de recherche à la Brookings Institutions à Washington. Et bonjour Michel Margueraz.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et d'abord, écoutons une grande voix, celle du général de Gaulle, extrait d'un discours tenu au palais de Chaillot devant les membres de la Résistance. Nous sommes le 12 septembre 1944.
Nos communications ferroviaires, fluviales, portuaires sont actuellement, pour la plus grande part, paralysées par des destructions innombrables. Et quant à nos moyens roulants de transport, par voie de fer ou par voie de terre, ils ont presque complètement disparu. Encore faut-il ajouter que les transports nécessaires aux armées ont naturellement la priorité sur ceux qui intéressent les populations, et qu'enfin, les prélèvements que l'ennemi a opérés sur l'ensemble de nos ressources, en particulier sur nos machines, sur nos stocks, sur nos matières premières, sur nos combustibles, depuis 1940, a réduit considérablement nos moyens de production. Enfin, les nécessités militaires, sachons-le, empêcheront l'OTAN, nos alliés, de procéder chez nous à des importations notables. Et c'est pourquoi chaque Français comprend que nous nous trouvons devant une période encore difficile, que la libération ne nous apporte pas du tout, tout de suite, l'aisance matérielle et que nous devrons maintenir des restrictions sévères et faire un grand effort de travail, d'organisation, en même temps que de discipline pour venir à bout de cela.
La libération ne nous apportera pas tout de suite l'aisance matérielle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Michel Margueraz, l'économie française est à genoux.
Oui, alors on est dans le discours prononcé. Nous sommes quelques semaines, 15 jours, 3 semaines après la libération de Paris. Mais on est encore dans la guerre, hein, puisque la guerre va durer encore 8 mois jusqu'à mai 45. Hein. Donc on est dans une situation intermédiaire. Or, de Gaulle fait allusion non seulement au prélèvement allemand, donc aux difficultés de l'occupation et de la collaboration, mais en fait, cette situation succède à une période elle-même de difficultés et de dépression depuis la crise amorcée au début des années 30. Donc ça fait quasiment 15 années de stagnation ou de régression. Donc l'économie est à un niveau conjoncture fin 44 bas, pratiquement la moitié de ce qu'il était avant l'entrée en guerre. Ceci étant, par rapport à ce que pouvait être la situation en Europe de l'Est, on peut pas dire que la France est détruite. Hein. C'est plus, en fait, le vieillissement, le sous-investissement, bon, des prélèvements allemands et des éléments des combats de la faim, mais on ne peut pas dire, malgré tout, hein, que la France est en ruine. Il y a eu des destructions inégales, mais il y a surtout, en fait, une économie qui a été déprimée pendant 15 ans et un vieillissement considérable de l'appareil de production.
Jacques Mistral, sur l'état de l'économie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.
pense, qui vient d'être dit par Michel Marias résume très très bien les éléments de comparaison qu'on peut faire. Vous évoquiez l'un et l'autre le fait que nous venons de passer le 8 mai 2020, le 75e anniversaire de la victoire. Et ce jour-là, j'ai pensé que la métaphore du président de la République disant que nous avions nous traversions une période de guerre contre le coronavirus, que cette métaphore qui avait été diversement acceptée, elle pouvait nous conduire à une autre métaphore sur l'économie d'après-guerre. Et s'il y a une phrase que je retiens du propos du général de Gaulle à ce stade, c'est celle suivant laquelle le déconfinement ne nous apportera pas immédiatement l'aisance matérielle. Et en effet, je pense qu'il y a des points de comparaison entre les situations économiques. Bien sûr, la différence majeure, fondamentale, que vient de rappeler Michel Margueras, c'est le fait que l'économie française avait traversé une longue période de dépression, de déclin, de stagnation et de privation. Nous n'avons pas connu une période comparable, mais les deux mois de confinement créent une économie d'après-guerre en deux sens, à mon avis. D'abord, le fait que la production, les échanges sont totalement désorganisés, comme ils pouvaient l'être en 1946-47. Et deuxièmement, par le fait que l'intervention des États massive pour compenser les effets terrible du virus et du sous-emploi crée une discordance dans les circuits financiers entre la production et les revenus qui est lourde de difficultés à venir.
Et dans les deux cas, on a pu entendre parler de la nécessité de faire des efforts. Le général de Gaulle le disait, il faut faire un grand effort de travail, d'organisation en même temps que de discipline dans ce discours de septembre 1944. La priorité, c'est alors d'augmenter la production nationale pour répondre aux besoins de la consommation intérieure et pour pouvoir exporter, Michel Margueras.
Oui, alors il y a une expression employée par les contemporains à l'époque, et notamment par le Parti communiste qui joue un rôle actif, qui à l'époque, c'est aussi une des grosses différences avec la situation actuelle, va représenter dans les premières élections plus de 25% des voix, donc qui apparaît comme une force majeure aux côtés des autres forces de la résistance et qui invoque la bataille de la production. C'est-à-dire on poursuit la bataille pour la libération dans la résistance par une bataille pour la production et au fond, ceux qui se réclament d'un autre système économique que le capitalisme se rallient à cette idée, se convertissent à l'idée qu'il faut relever la France. Je vous rappelle que en septembre 1944, le gouvernement, au moment du discours du général de Gaulle, le général de Gaulle dirige un gouvernement d'union nationale qui comprend des communistes, des socialistes, des démocrates chrétiens et toutes les forces de la résistance qui ont refusé Vichy. Donc c'est bien l'idée que les restrictions qui ont été imposées par la pénurie et par l'occupant, rappelons que les quantités consommées, produites, sont totalement contrôlées par un appareil répartition sous contrôle allemand jusqu'en août 44, et que les Français doivent subir des restrictions, ça a été un terme employé par le général de Gaulle, qui vont durer, qui vont pratiquement, pour les plus durables, continuer jusqu'en 1949.
Et la bataille de la production, cela passe par la modernisation de l'appareil productif, mais aussi des méthodes de travail, le tout encadré par l'État, Michel Margueras.
Eh bien, si vous voulez, on en arrive à cette question de savoir comment relever la France, et cela fait partie, en fait, du projet mûri dans la résistance. Le président de la République a cru bon, je ne sais pas si c'était de très bon goût, d'évoquer les jours heureux. Ça n'a pas grand-chose à voir, puisque au fond, les jours heureux, c'était le titre du programme du Conseil national de la Résistance, qui a été en fait rendue publique, mais publique clandestinement, évidemment. Hein. Il n'y a pas une publication à l'époque, on est en mars 1944, hein, et qui fournit les principaux objectifs du relèvement de la France et qui reflète un consensus absolu entre toutes les forces de la résistance, tous les mouvements, les partis en lutte contre l'occupant, c'est-à-dire à peu près toute la gamme des partis politiques, et les deux centrales syndicales résistantes, la CGT et la CFTC. C'est le seul document qui, en fait, recueille l'unanimité des forces politiques et sociales depuis 1789.
On va revenir à ce consensus, mais d'abord, quel rôle a joué le souvenir de la crise de 29 dans l'élaboration de la planification à la française dont on va parler dans un instant, Jacques Mistral?
Ah bien, la période des années 30, de ces difficultés successives entre l'espoir initial de passer au travers, puis les conséquences dramatiques venues du monde extérieur, les réponses libérales, la tentation de la déflation, puis la réponse du front populaire, et les difficultés sur lesquelles cette expérience a rapidement buté. Tout cela est effectivement très présent, et ce que vient de souligner Michel Margueras sur le rôle du Conseil national de la résistance et de son programme est évidemment très important. Néanmoins, je crains parfois qu'on attribue en France une importance trop grande aux éléments de spécificité qui vont marquer cette période à travers justement le programme du Conseil de la résistance et la création de du processus de planification. Et en introduction à cette émission, je pense qu'il est toujours bon d'avoir en tête une comparaison internationale, car la situation dans laquelle nous nous trouvions est bien sûr spécifique, mais enfin, toutes les économies occidentales étaient confrontées à un même problème que, rétrospectivement, on peut caractériser, et c'était un peu le sens de votre question précédente sur la modernisation, confrontées à un problème similaire qui était de passer du capitalisme ancien, disons celui du 19e siècle, du début du 20e siècle, capitalisme concurrentiel, à ce que l'on appellera de nos jours la période fordiste. Et le plan est la forme, l'une des formes institutionnelles qu'a pris ce tournant dans notre pays, mais il faut bien avoir en tête qu'il a été pris partout et selon des méthodes qui sont très différentes. Donc il faut toujours avoir en tête que la France présente une spécificité, je crois, liée justement à ce sur quoi Michel Margaz mettait l'accent, l'équilibre des forces politiques, la division profonde du corps social, la difficulté de réunir un consensus sur ce que sont les priorités, et je pense que ce sont des points sur lesquels on reviendra tout à l'heure.
C'est important de souligner aussi, Michel Margueras, que le gouvernement de Vichy avait mis au point une économie extrêmement encadrée. Il y a aussi un héritage, même contesté, de cette période.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, les Français savent très bien que il faut éliminer le plus possible les effets les plus dévastateurs du régime de Vichy, la discrimination, la répression, rétablir la démocratie, c'est le programme du CNR, mais qui prévoit en plus que cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie du régime de la Troisième République. Il y a la volonté d'aller plus loin vers la démocratie économique et sociale, d'où les nationalisations, le plan, les comités d'entreprise, un nouveau statut de la fonction publique, la planification. Alors je suis d'accord avec Jacques Mistral pour dire que c'est pas tout à fait original à la France. Hein. Vous avez au même temps l'application du plan Beveridge en Angleterre, vous avez la poursuite de certains éléments du New Deal par Truman aux États-Unis. Donc c'est un mouvement international de réévaluation de la démocratie économique et sociale, où plusieurs organisations ont joué un rôle, mais surtout l'Angleterre et les États-Unis, qui sont les pays les plus libéraux et qui vont en fait être les pays aussi où l'intervention va faire un saut important par rapport à l'avant-guerre. Mais en France, ce qui est nouveau, c'est l'idée qu'il faut à la fois débarrasser la France de l'État vichiste, mais requalifier un État démocratique. Donc c'est ce double mouvement que va faire De Gaulle, c'est-à-dire pas disqualifier complètement l'État, mais le requalifier en créant un régime nouveau et en étendant la démocratie économique et sociale par les réformes, dont la planification.
Et la réinvention de cette démocratie économique et sociale est rendue possible notamment par les réflexions qui ont été menées par des groupes d'experts pendant la guerre parmi les résistants ?
Alors oui, on entre dans une histoire un peu compliquée parce qu'il y a à la fois, comme souvent, des éléments de continuité et puis des éléments de rupture. C'est-à-dire qu'en fait, on a une recomposition complète des courants. Je l'ai dit, le fait que, par exemple, tous les communistes étaient hostiles à la planification, contrairement à ce qu'on pourrait croire, jusqu'en 1937, 38, 39. Ils vont s'y rallier, ils vont se rallier à la sécurité sociale, etc., etc. Donc la guerre a entraîné toute une série de recompositions. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait eu des experts avant-guerre, des mouvements parmi les élites économiques, parmi les ingénieurs, le mouvement d'X-Crise, que la planification avait une certaine aura parmi des milieux divers, modernisateurs des années 30, dont on va retrouver trace dans Vichy. Vous savez qu'il y a tout un aspect Vichy technocratique, donc on a beaucoup parlé à un moment donné, mais les continuités ne sont pas absolues. C'est Jean Monnet qui a été l'initiateur de la planification et le premier commissaire général du plan, et qui a proposé au général de Gaulle, un an après votre extrait, là, à la fin de 1945, un premier plan, qu'on va appeler le plan Monnet, sur 5 ans, qui envisage donc un objectif de production avec des partenaires nouveaux, et notamment, c'est ça l'originalité, alors ça c'est quand même une originalité de la France. La sécurité sociale c'est pas très original, les nationalisations c'est pas très original, tout ça on retrouve ça en Angleterre, en Italie, dans d'autres pays. Le commissariat général au plan c'est quand même une petite spécificité française de ce relèvement.
Alors avant d'aller plus loin, Michel Margaret, je voudrais justement qu'on écoute un extrait des mémoires de Jean Monnet, des mémoires qu'il a publiées 30 ans plus tard et dans lesquelles il revient sur ce jour, le 14 décembre 1945, où il a présenté devant le comité économique interministériel le projet d'organisation du commissariat au plan.
Dès ce moment, la philosophie du plan français était claire dans mon esprit et il me restait à lui donner sa forme pratique. Ce serait une méthode de convergence dans l'action et le moyen pour chacun de situer son effort par rapport à celui de tous. Il fallait faire en sorte que les besoins les plus pressants et les ambitions les plus lointaines fussent subordonnés à l'impératif que nous nous fixâmes. D'abord, prendre une vue d'ensemble. Les techniciens qui nous apportaient leurs chiffres, les industriels leurs dossiers, les syndicats leurs programmes, repartaient avec des extraits de notre discours sur la méthode. Qu'ils s'en imprègnent d'abord et qu'ils reviennent ensuite, au moment où nous aurions créé le cadre utile pour discuter tous ensemble. Ce cadre était à inventer. Comme je l'ai dit, l'administration, les producteurs et les travailleurs n'avaient jamais été réunis autour de la même table. S'il leur arrivait de négocier, c'était à deux et dans un climat d'affrontement. Il y avait un vainqueur et un vaincu, au détriment de la production ou de la monnaie, de sorte que le problème était seulement reporté. La notion de plan n'existait qu'au niveau des controverses idéologiques, en référence au plan quinquennal soviétique, et je savais que seule l'action dissiperait l'équivoque qui entourait le modèle entièrement original que nous imaginions.
Un modèle entièrement original, Jacques Mistral, qui tient à se démarquer clairement des plans quinquennaux soviétiques.
Ah oui, ça c'est absolument clair. Il y a une origine historique française qui a été brièvement commenté, n'est-ce pas, qui va de l'idée de plan dans les années 30 à la au groupe X-Crise, à Bichelon. Tout cela, c'est la façon française d'avoir introduit dans les élites dirigeantes l'idée de méthode rationnelle de décision, et cela s'applique partout. Regardez aux États-Unis, comment appelle-t-on le fait qu'une grande entreprise comme celle qui sont en train de se constituer à l'époque, comment prépare-t-elle son avenir? Elle fait un business plan. Et donc, dans cette première acceptation du terme, l'idée de plan est une idée qui se rapproche plus de la méthode de décision que du programme quinquennal précis et impératif de l'Union soviétique. Il y a vraiment rien à voir. Alors, ce qu'ajoute Jean Monnet de manière extrêmement intéressante et qui, elle, alors, est le trait spécifique de la planification à la française pendant plusieurs décennies, c'est l'idée de concertation. Et il a merveilleusement exprimé ce que je suggérais tout à l'heure, c'est que l'une des caractéristiques de notre pays est la difficulté de réunir l'opinion publique autour d'un consensus national sur les grands objectifs à poursuivre. Et il a résumé cela en disant traditionnellement, cette opposition se termine en matière économique, en matière idéologique, en matière politique, par un vainqueur et un vaincu. Et c'est cela qu'il faut surmonter, en sachant que c'est une réalité fondamentale, qui était d'autant plus pressante en 1945, enfin au moment de la reconstruction et de la modernisation, d'autant plus pressante que, comme on l'a rappelé au début de l'émission, le Parti communiste et par conséquent également les organisations syndicales qui en étaient proches, le Parti communiste avait un poids politique absolument de tout premier plan. Donc la concertation que va animer le commissariat général du plan, à partir du moment où il a été, comme le demandait Jean Monnet, comme en fait il l'a imposé à plusieurs reprises, un organe indépendant de l'administration traditionnelle, du ministère de l'économie, du ministère des finances, du ministère de la production, que sais-je, il a été en permanence directement rattaché à la présidence du Conseil ou plus tard au Premier ministre, parce que précisément c'est un organe de travail du gouvernement sur le terrain interministériel.
Je voudrais faire réagir Michel Margueras, pardonnez-moi de vous interrompre Jacques Mistral, sur cette idée de la concertation. C'est vraiment, comme le disait Jacques Mistral, ce qui fait l'originalité de ce premier plan.
C'est l'une des originalités, ce n'est pas la seule. C'est l'une des originalités, il reprenait l'image de l'économie concertée, c'est-à-dire l'idée qu'on a un concert, etc. Donc il filait souvent la métaphore. Sa grande invention, c'est les commissions de modernisation. C'est-à-dire de faire des commissions par grands produits ou grands secteurs, l'énergie, les transports, la main-d'œuvre, etc. Et à l'intérieur, de mêler des représentants syndicaux, des représentants patronaux, des experts et des représentants de l'État. C'est-à-dire une nouvelle définition de la démocratie, à côté de la démocratie parlementaire, une démocratie économique et sociale, avec des objectifs communs. Donc ça, c'est une des originalités. La deuxième originalité, c'est de prévoir des objectifs de croissance globaux. Hein, c'était l'idée de retrouver en 1950 le niveau de 1929 plus 25%. C'est-à-dire rattraper l'effondrement depuis 1931-32, mais dépasser le niveau historique absolu qui avait été atteint en matière de production, qui était 1929, plus 25%.
Et cela dans des secteurs stratégiques, le charbon, l'électricité, le ciment, le machinisme agricole, le transport et l'acier.
Alors voilà, l'autre originalité, c'est de définir des priorités cohérentes, c'est-à-dire des priorités qui sont solidaires les unes des autres, l'acier, l'énergie, électricité, charbon, les transports nationaux, le machinisme agricole. Et là, j'insiste sur le fait que c'est l'idée que tous ces secteurs sont interactifs, c'est-à-dire que en privilégiant l'un, on facilite l'autre. En développant l'électricité, on modernise les chemins de fer, en développant l'acier, on modernise aussi les constructions mécaniques, etc. Et c'était ce qu'il appelait les secteurs de base, c'est-à-dire il faut se mettre d'accord sur des priorités qui sont quasiment évidentes pour tout le monde. et elles n'ont pas été contestées. Donc ça, ça a été aussi sa grande originalité, c'est de mettre le doigt sur 5-6 priorités qui vont tenir bon jusqu'en 1950 et dont tout le monde admet, qu'ils soient libéraux ou moins libéraux, dirigistes ou autres, que c'est de toute façon des secteurs prioritaires. Le dernier élément qui est l'originalité, c'est le fait que Jean Monnet est à l'articulation entre un consensus national, il accepte, il fait rentrer la CGT dans les commissions de modernisation, hein. La commission de la main-d'œuvre est dirigée par un responsable syndical, ancien résistant, André Tollet, qui va accepter l'allongement de la durée du travail. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à aujourd'hui ce que ça veut dire.
La semaine de 48 heures.
La 41e heure est payée 25% de plus. C'est-à-dire que si vous voulez, la CGT va admettre l'idée qu'on ne peut pas revenir à 40 heures comme en 36, qu'on va faire plus, mais qu'on va payer davantage de la 40 à la 48e. C'est-à-dire que c'est quand même une revalorisation du salaire horaire qui est prévue.
Il y a un consensus sur l'idée que l'augmentation de la productivité permet une augmentation du niveau de vie, Michel Margueras.
Oui, il y a même dans ce rapport de la commission de la main-d'œuvre présidée par le syndicaliste communiste Tollet, l'idée que l'augmentation de la productivité doit se traduire par une augmentation équivalente en pouvoir d'achat. Et le dernier élément qui fait l'originalité de Jean Monnet, c'est qu'il a l'oreille des Américains. Il sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, les ressources françaises ne seront pas suffisantes pour atteindre ce programme. Qu'il faudra, il a d'ailleurs été amené à le faire dès 46, hein, à aller solliciter les États-Unis dans la négociation dite Bloom-Burns, où Léon Blum est réutilisé une dernière fois pour mener cette délégation, mais c'est en fait Jean Monnet, mais qui est insuffisante, et il sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, or il a la confiance des Américains, parce qu'il est proche aussi des Américains, et qui sait qu'il peut s'appuyer aux États-Unis même sur des milieux qui sont favorables à l'idée d'un relèvement de l'Europe.
On va voir qu'il est difficile, en effet, Michel Margueras, de séparer le premier plan mis en place par Jean Monnet et le plan Marshall. On en parle dans un instant. Andy Warhol sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Michel Margueras et de l'économiste Jacques Mistral pour parler de la planification à la française. Et c'est dans ce contexte, dans le contexte de la mise en place du premier plan par Jean Monnet, qu'intervient le plan Marshall, défendu ici par Robert Schuman.
Nous importons bien plus que nous n'exportons. Et il en sera ainsi pendant plusieurs années encore. C'est dire que nous continuerons à manquer de devises, et notamment de dollars, pour payer le surplus de nos importations. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que se place l'aide américaine dite Plan Marshall. Cette initiative généreuse a été critiquée. Elle a été refusée par certains pays, malgré eux, parce qu'ils n'étaient pas libres de l'accepter. D'autres ont préféré se replier sur eux-mêmes. Nous le regrettons. Nous considérons qu'il y avait là une grande chance pour l'organisation pacifique du monde. Nous n'aurions, quant à nous, ai-je besoin de vous le dire, accepté aucune atteinte à notre indépendance politique et économique. On ne nous a jamais demandé d'abandon de ce genre.
Jacques Mistral, que pensez-vous de ce discours de Robert Schuman, qui est alors président du Conseil, discours prononcé le 18 avril 1948 ?
Eh bien, tout d'abord qu'il met l'accent sur le point le plus névralgique des années qui commencent dans l'histoire économique française, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contrainte extérieure. Alors c'est un mot qu'on déteste dans ce pays, dans le débat de public, sans reconnaître que l'idée que tous les pays sont dépendants les uns des autres est une donnée de fait, et que à partir de ce moment-là, ce que dit Schuman concernant les importations et les exportations est le juge de paix de la politique que l'on peut mener en toutes circonstances. Et la France a une histoire assez troublée de ce point de vue-là, puisqu'elle a expérimenté la contrainte extérieure depuis un siècle, de manière quasiment continue, depuis les lendemains de la Première Guerre mondiale, avec l'évaluation des années 20, et jusqu'au rapport délicat que nous avons toujours avec notre voisin allemand au sein de l'euro. Donc c'est ça que met en avant Schuman, dans une période qui est marquée effectivement, pour le coup, par une pénurie absolue, quasiment vénézuélienne, disons, de dollars.
Mais justement, dans un contexte de dépendance vis-à-vis des crédits américains apportés par le plan Marshall, le plan de Jean Monnet, c'est une manière de garantir l'indépendance nationale.
Bien sûr, bien sûr, mais il y a une dépendance qui est liée au fait que cette offre des États-Unis permet, dans leur intérêt bien compris, n'est-ce pas, à la fois économique et politique, de desserrer nos propres contraintes temporairement et de nous permettre de retrouver une liberté de mouvement économique et politique plus grande. Donc votre question portait sur l'aspect politique. Je voudrais rester encore un peu sur l'aspect économique. C'est que la question à laquelle ne répond pas Schuman à ce moment-là, c'est de savoir quel usage sera fait des marges de manœuvre qu'apporte le financement extérieur accordé dans le cadre du plan Marshall, de manière à ce que l'on retrouve au plus vite cette indépendance économique et financière. Et là, je retrouve un peu un propos de Michel Margueras tout à l'heure sur le choix des priorités. Il commentait le plan de Jean Monnet comme un plan qui avait bien établi un certain nombre de priorités. En vérité, ce sont des priorités industrielles, n'est-ce pas, qu'il a bien mises sur le papier et fait adopter celles qu'il a décrites, l'électricité, la sidérurgie, les transports, etc. Mais c'est une logique extrêmement facile à saisir en termes économiques, avec les tableaux du change interindustriel, c'est même ce qui caractérise les plans soviétiques. Donc la difficulté pour un gouvernement, c'est évidemment de restaurer cet équilibre des branches techniques, mais c'est surtout de choisir ses priorités de manière à ce que la contrainte extérieure, d'année en année, ne se renouvelle pas. Et là, ça ouvre tout un champ de questions sur la façon dont la France n'a pas su choisir ses priorités pendant toute cette période et a toujours ferré, pour le dire brièvement, avant qu'on entre peut-être plus dans le détail, dans les débats entre Mendès France, Pleven, etc., la France n'a jamais su choisir pendant cette période ses priorités fondamentales entre le pouvoir d'achat, l'investissement, les guerres coloniales, etc. Donc, il reste un grand point d'interrogation au terme du discours de Schuman, qui n'est pas simplement un problème d'indépendance à l'égard des États-Unis, qui est un problème d'indépendance de nos propres choix sur le plan financier.
Et en parallèle, le consensus voulu par Jean Monnet autour du premier plan va se fissurer justement avec l'acceptation de l'aide américaine et la rupture avec l'URSS, Michel Margueras.
Oui, c'est sûr que le plan Marshall est à la fois l'objet et le facteur de rupture internationale, l'entrée dans la guerre froide, l'allusion de Robert Schuman est limpide, hein, les pays qui ont refusé, malgré leur velléité, c'était la Tchécoslovaquie et la Pologne, et le pays qui a refusé délibérément et qui s'est isolé, c'est l'URSS. Bon, ceci étant, on sait très bien que, en fait, Marshall savait très bien que l'URSS ne pouvait pas accepter. Pourquoi ? Parce que le plan Marshall, c'est un système un peu compliqué où des dollars sont fournis la plupart du temps sous forme de dons, hein, d'ailleurs. C'est de l'argent public américain voté par le Congrès. Donc il faut bien montrer au Congrès que on lutte contre le communisme en permettant aux pays européens de se relever, hein, pour que, au fond, le représentant de l'Illinois ou de l'Iowa accepte au fond de verser de l'argent à la France, à la Belgique, à l'Italie, etc., etc. Mais de ce point de vue-là, les conditions étaient quand même pas évidentes d'un point de vue politique, puisque c'était votre question, puisque au fond les États-Unis versaient des dollars au Trésor français, qui les vendait à des importateurs français, donc qui bénéficiaient de dollars qui n'auraient pas pu être obtenus autrement. Et du coup, c'était aussi une manne en francs, puisque ces dollars avaient été échangés contre des francs payés par les importateurs français. Donc l'aide Marshall était double. Elle permettait d'avoir des dollars sans avoir à les obtenir par des exportations, mais elle fournissait aussi un surplus en francs qui résultait de la vente de ces dollars aux importateurs français. Mais pour utiliser ces francs, il fallait l'autorisation des États-Unis, quand même. C'était ça la marque possible d'une intervention américaine. Alors le génie de Jean Monnet, c'est peut-être excessif de dire le génie, mais disons le talent de Jean Monnet, c'est d'avoir tenu d'un côté l'idée que le plan garantissait l'indépendance nationale, ce qui était une manière de maintenir quand même au moins jusqu'en 47 le soutien des communistes, mais de l'autre côté de dire aux Américains, au fond, faites réussir le plan Monnet, parce que comme ça la France restera fidèle à l'alliance américaine qui va suivre en fait, hein, puisque le plan Marshall va être suivi ensuite par l'alliance atlantique. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir de 47, il y a la rupture politique.
Avant la rupture, les communistes ont tout de même contribué au fait que le plan ne soit pas élaboré par les seuls hauts fonctionnaires, avec cette idée qu'il ne fallait pas que seuls les technocrates participent à l'élaboration de ce plan.
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Ça s'est même matérialisé par le refus d'un plan précédent qui était proposé par Mendès France. Hein, quand Mendès en fait, est amené à démissionner sur des questions monétaires, qui est bien connue avec Pleven, etc. Il voulait un plan anti-inflationniste, bon, mais il voulait aussi être à l'économie nationale, à la tête d'un plan élaboré uniquement par les hauts fonctionnaires. Et ça, les communistes n'en voulaient pas. Et Jean Monnet l'avait bien compris. Hein, il fallait rénover une démocratie nouvelle en y impliquant les syndicats. Or, la CGT, qui était extrêmement puissante, hein, en 1946-47, 3 millions d'adhérents, vous imaginez, par rapport à aujourd'hui, ça aussi, ça fait une énorme différence, hein, eh bien, ont accepté. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jacques Mistral, parce qu'il y a quand même une priorité, hein, qui a été acceptée par tous, qui était l'investissement plutôt que la consommation. C'est-à-dire qu'au fond, hein, les Français ont accepté une certaine régression du pouvoir d'achat, au moins jusqu'au début des années 50, mais compensé par des acquis sociaux, des droits sociaux nouveaux. La sécurité sociale, la protection sociale, les comités d'entreprise, un statut de la fonction publique, donc des avantages indirects, mais qui étaient quand même la compensation au fond de ce que expliquait le général dans votre discours précédent, c'est-à-dire le fait qu'il faudra attendre avant l'aisance, on n'aura pas l'aisance tout de suite.
Cet interventionnisme étatique de l'après-Seconde Guerre mondiale se traduit aussi par des grandes nationalisations, en particulier en 1945 et 1946. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces nationalisations qui interviennent dans le secteur de la banque et dans l'industrie, Michel Margueraz?
Alors, on a des nationalisations dont certaines résultent au fond de situations difficiles pour les secteurs en question, et dans d'autres cas, pour le fait qu'elles vont représenter un des secteurs majeurs de la reconstruction. En ce qui concerne, par exemple, les charbonnages, c'est probablement la tension sociale et les luttes importantes entre les compagnies, les dirigeants des compagnies privées et les salariés fortement syndiqués à la CGT qui ont pesé. C'est-à-dire que comme les mines sont au cœur de la bataille de la production, avec l'image du mineur, le discours de Torres en 45 qui justement incite à produire, etc., n'était pas possible avec les dirigeants des anciennes compagnies compromis par la collaboration. Donc là, on a très clairement un secteur qui devient décisif pour la reconstruction. Pour l'électricité, c'est la même chose, même si, au fond, le secteur était en meilleure santé de ce point de vue-là. Bon, il faut dire que ce sont des nationalisations qui ont été indemnisées pour les actionnaires, et que d'autre part, bien souvent, la nationalisation permet la modernisation. C'est-à-dire que dans le cas de EDF, GDF, de l'électricité et du gaz, la nationalisation est largement aussi perçue comme un élément de poursuite des efforts d'avant-guerre pour interconnecter tout le réseau. C'est-à-dire, au fond, c'est créer un véritable réseau national électrique, ce qui fait que, en réalité, ces nationalisations étaient défendues bien au-delà du mouvement syndical et de la gauche. Les grands ingénieurs, même conservateurs, y voyaient un élément de modernisation de l'appareil productif électrique français.
Autre action de l'État dans l'économie, la puissance publique essaye, on commençait à en parler, de contrôler les prix, mais pour autant elle ne parvient pas à enrayer l'inflation, Michel Margueraz.
Oui, alors ça c'est une suite au fond de l'histoire de la période de Vichy, c'est-à-dire que ce contrôle des prix, là aussi il faut faire une comparaison internationale, pourquoi ça a bien plutôt mieux fonctionné en Angleterre. Quand vous contrôlez les prix à des niveaux insuffisamment rémunérateurs, eh bien on sait très bien qu'à ce moment-là, les producteurs vont au fond essayer de découler leur production, notamment pour des produits essentiels alimentaires ou textiles ou autres, par un marché noir, un marché gris. Il n'y a pas que du marché noir où il y a des ultra-spéculateurs, il y a le marché gris aussi de gens qui ont besoin de s'approvisionner et qui, du fait de la pénurie, ne trouvent pas de produits. Et ça va se poursuivre, en fait, au-delà de la libération. C'est-à-dire, les gouvernements sont un peu saisis dans le dilemme entre taxer les prix, bloquer les prix et avoir des marchés vides, ou laisser une rémunération plus libre et à ce moment-là avoir un petit peu plus d'aisance. Et en fait, tant que la pénurie ne sera pas surmontée, c'est-à-dire vers les années 1948-49, au fond, les possibilités de contrôle des prix vont être assez illusoires. Parce que chaque fois que vous bloquez un prix, vous avez des dérogations. Et donc, en réalité, c'est tout le système des dérogations qui lui-même rend impossible le maintien véritable. En Angleterre, c'était beaucoup plus possible parce que les quantités étaient supérieures. C'est-à-dire que quand vous faites un contrôle des prix avec quand même une situation de pénurie limitée, relative, pas trop forte, là vous pouvez tenir éventuellement.
On a parlé du premier plan mis en place en 1947. Dans les années, les décennies suivantes, les plans vont se multiplier. Est-ce que le commissariat au plan permet alors vraiment de renouveler les élites bureaucratiques, comme on avait peut-être pu le constater lors du premier plan, Michel Margueraz ?
Alors, on a fait il y a assez longtemps une étude avec Henri Rousseau sur tous les responsables des commissions de modernisation du 1er au 9e plan. Et on montrait que, au fond, au-delà du 1er plan, il y a de plus en plus de hauts fonctionnaires et de plus en plus d'experts et de moins en moins de syndicalistes et de chefs d'entreprise, sauf quelques chefs d'entreprise généralement très proches des experts. Donc on voit assez bien combien le plan, à la fin des années 50 et dans les années 60, devient quand même de plus en plus un élément des experts et des hauts fonctionnaires des ministères de l'État, ministère de l'Industrie, ministère des Finances. Mais il est vrai que ça a été tout de même un élément de rénovation des grands choix politiques, c'est-à-dire que c'était quand même un débat qui permettait aux partenaires sociaux, comme on dit, de définir des horizons à 5 ans. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de définir un horizon quand on a une croissance à 5%, ce qui a été le cas la plupart du temps dans les années 50 et dans les années 60, que quand on est dans une croissance très faible ou dans une croissance nulle. Mais ce qui a donné aussi la force au plan, c'est que parallèlement au plan, il y a eu quand même une sophistication des moyens techniques économiques, de calcul économique, à travers notamment la comptabilité nationale.
Eh bien, justement, c'est ce que nous explique Pierre Massé, que j'aimerais vous faire entendre tout de suite. Pierre Massé, qui est un ancien commissaire au plan au moment du retour au pouvoir du général de Gaulle.
Il vous arrive certainement de temps à autre de tirer des plans pour vos vacances prochaines, pour l'achat d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un appareil de radio ou de télévision. Les entreprises, elles aussi, dressent des plans. Qu'il s'agisse d'exploiter un gisement au Sahara, d'aménager une rivière comme la Durance, d'irriguer le Languedoc, de forer un puits de mine ou d'installer une aciérie en Lorraine, il faut s'assurer des débouchés, du personnel, des terrains, de l'outillage, des capitaux, et ordonner le tout suivant un programme cohérent. La planification des entreprises a fait depuis la guerre de grands progrès. On lui a appliqué de nouvelles méthodes dont vous avez peut-être entendu parler sous le nom un peu mystérieux de recherche opérationnelle. Disons plus simplement qu'il s'agit de préparation scientifique des décisions. L'application de ces méthodes a été grandement facilitée par les machines électroniques, venues à point nommé assister le cerveau humain. Je dis assister et non remplacer, car si la machine résout des problèmes de plus en plus difficiles, l'homme reste indispensable pour les poser et pour prendre, au terme du calcul, la responsabilité de la décision.
Pierre Massé, à propos du troisième plan, lors d'un discours prononcé le 16 décembre 1959, il évoque ces machines électroniques qui assistent mais ne remplacent pas le cerveau. C'est en effet une période de grand progrès dans la planification, Jacques Mistral.
Ah, c'est une période de progrès. Je retrouve dans ce que nous venons d'écouter l'idée que j'avançais tout à l'heure, suivant laquelle l'un des aspects de la planification à la française, et qu'il le banalise, c'est l'idée de méthode rationnelle de décision. Alors Massé ajoute, remplace le mot rationnel par le qualificatif scientifique, qui est un petit peu emphatique. Et c'est vrai que à la fois sur le plan intellectuel, avec des outils comme la recherche opérationnelle, la comptabilité nationale, les modèles économétriques, la planification va se trouver considérablement enrichie, mais le fait d'utiliser des outils de son temps, des outils intellectuels et pratiques de son temps, ça ne change pas nécessairement la logique du processus. Donc il faut en revenir toujours à l'autre aspect qui est celui de la concertation et que vous évoquiez dans votre question précédente, et je souscris à ce que dit Michel Margaret sur le fait que progressivement le processus de planification à la française, très marqué par cette idée de concertation dans les toutes premières années, quand le Parti communiste et la CGT étaient partie prenante explicite et réfléchie du processus, a tourné progressivement un peu à vide, parce que ce n'est pas vraiment un élément de un processus démocratique, n'est-ce pas? La planification, elle n'est pas votée démocratiquement. C'est un processus dans lequel l'exécutif, le gouvernement, expose les contraintes, présente des alternatives, écoute les partenaires sociaux, comme on dit, et finalement, l'idée, c'est que au terme du processus, le gouvernement décide de ce que sera le plan et la planification.
Et alors, en même temps, est-ce que le retour au pouvoir du général de Gaulle n'a pas signé la renaissance, une certaine renaissance du plan, Michel Margueras?
Oui, puisque vous connaissez ce fameux discours d'avril 61, peu après le putsch des généraux, où le général parle d'ardente obligation. Et c'est lui qui nomme donc Pierre Massé comme troisième commissaire au plan, le précédent étant Étienne Hirsch, hein, le grand-père de
Martin Hirsch, directeur de la PHP.
Or, Pierre Massé va redonner, au fond, un élan à cette planification, au point d'ailleurs que la CGT, puis après 1964, la CFDT vont revenir dans les commissions de modernisation. Donc, ce qui est quand même le signe de renouer avec un certain consensus. Par ailleurs, il va vouloir quand même que, in fine, le plan soit voté, hein, au Parlement. Bon, il est élaboré dans les commissions, mais il est quand même voté à la fin, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine réconciliation.
Mais ce qui est intéressant avec 70, ce troisième plan, Michel Margueras, c'est que c'est le premier à parler d'équilibre géographique de la croissance et à inclure le logement, notamment.
Oui, alors c'était en fait un rattrapage d'un retard quand même très important. Le logement avait été sacrifié délibérément. C'est pour ça qu'il y avait quand même des priorités économiques. On ne voulait pas répartir, saupoudrer les ressources dans tous les secteurs. Les secteurs de base, le logement n'en faisait pas partie. Donc ça a été un rattrapage après, vous savez, la campagne de l'abbé Pierre, etc. Les difficultés de logement qui faisaient suite à un vieillissement du parc de logement depuis quasiment la guerre de 14. Donc c'est l'idée de rééquilibrer mieux. Donc l'idée de priorité commence à s'estomper, ce qui fait que d'ailleurs le plan commence à perdre un peu de sa pertinence dans la mesure où au fond le plan fonctionne bien quand il y a des priorités claires. Il fonctionne beaucoup moins bien quand on commence à multiplier les secteurs à développer, etc., et où là, on se pose la question de savoir si le marché ne garantit pas une meilleure allocation des ressources. Mais surtout, il y a eu un autre élément qui a affaibli le plan. Malgré sa sophistication intellectuelle, Pierre Massé était un scientifique véritable et un homme de grand prestige, c'est le fait que à partir de 1957, la construction progressive du marché commun, le poids des exportations va devenir quand même de plus en plus important. Or, le plan fonctionnait en essayant de construire ce que Pierre Massé appelle une étude de marché généralisée, c'est-à-dire d'estimer, d'anticiper la demande à venir. Or, quand la demande devient de plus en plus extérieure, que les poids des exportations, eh bien là, au fond, les calculs sont de plus en plus difficiles. Et c'est ça, au fond, c'est l'ouverture progressive de l'économie, par ce biais-là notamment, qui va rendre de plus en plus difficiles les calculs de la croissance à venir.
Donc, on assiste à un effacement progressif des plans dès la seconde moitié des années 60, et pourtant, Jacques Mistral, le commissariat général au plan, n'est supprimé qu'en 2005 par Dominique de Villepin.
Alors, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, pour célébrer à la fin des années 60 et au début des années 70, la convergence du progrès des méthodes qu'évoquait Pierre Massé et le réveil de la concertation qu'évoquait Michel, moi je considère dans l'histoire de la planification la préparation du sixième plan comme un très grand moment à la fois de pédagogie économique et de clarté des choix politiques. C'est le plan où a été concrétisée l'idée d'impératif industriel. C'est un terme qu'avait, si ma mémoire est bonne, popularisé Lionel Stoléru en concentrant l'attention sur le fait que depuis la reconstruction, les années 50, les années 60, et par comparaison à l'Allemagne, notre problème était toujours d'avoir une industrie insuffisamment exportatrice. Et donc, les circonstances qui ont convergé pour la préparation du sixième plan ont mis à la fois sous la main des experts et des partenaires sociaux et des chefs d'entreprise un modèle qui s'appelait le modèle physico-financier à l'époque, un modèle très original parce qu'il partait de cette idée que l'avenir du pays dépendait de notre capacité exportatrice et que tout était organisé autour de cette capacité d'exportation avec un modèle qui était au fond extrêmement simple à comprendre. Et muni de ce modèle et muni de l'impératif politique consistant avec l'élection de Georges Pompidou consistant à mettre l'industrie au premier rang des priorités de politique économique, on a eu là pendant quelques années une espèce d'âge d'or qui effectivement s'est délabré ensuite avec les chocs pétroliers et la suite des événements.
Un dernier mot, Michel Margueraz, sur l'héritage de ces plans successifs. Aujourd'hui, l'État s'est porté au secours de Renault, tout en imposant des conditions en contrepartie du prêt de 5 milliards qu'il garantit au groupe automobile. Est-ce que ce sauvetage de Renault, ce serait pour vous le retour de l'État planificateur ?
Non, je pense qu'on a vraiment des conditions totalement différentes du point de vue des acteurs. On n'a plus du tout la possibilité de réunir, comme c'était le cas dans ces années-là, hein, des protagonistes sociaux aussi implantés, hein, représentatifs que les syndicats de l'époque. Donc la désyndicalisation a quand même changé beaucoup la donne. D'autre part, un autre aspect a changé la donne, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que de plus en plus d'éléments désormais proviennent de l'offre et de la demande extérieure. Or, on a bien vu que la solidité du plan était aussi liée en partie à la fermeture relative des frontières. Mais surtout, le troisième facteur, c'est quand même plus facile de prévoir quand l'avenir est connu. Or, en 44, l'avenir est quand même connu. On sait que ça va être fondé sur l'acier, sur les constructions mécaniques, sur la chimie, sur l'électricité, sur les transports et leur modernisation dont on a parlé le général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, comme dirait Pierre Dax, c'est plus difficile de connaître de prévoir, surtout quand ça concerne l'avenir.
Pustin, extrait du nouvel album de Liane Lahavas. Merci beaucoup Jacques Mistral et Michel Margueraz de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Jacques Mistral, La science de la richesse, essai sur la construction de la pensée économique, paru chez Gallimard l'an dernier. À noter également que le cours de l'histoire de Xavier Mauduit consacre une série entière à la résistance, une série intitulée Où sont passés les jours heureux. Ces émissions s'inscrivent dans la semaine spéciale que France Culture consacre à Charles de Gaulle. Demain, dernier épisode de notre série sur les communs, on se demandera s'il faut partager le travail avec Pierre Dardot et Noémie de Grenier. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange, qui s'intéresse aujourd'hui à l'historien et à l'écrivain qu'était de Gaulle. Bonne journée et à demain. If you're trying to lose.